Le journal Adjachi Pokumetol.
Ce n'est plus qu'une question d'heure. Le premier chef de l'État congolais élu au suffrage universel va officiellement entrer en fonction ce mercredi 6 décembre 2006. La cérémonie va se dérouler au Palais de la Nation, d'où nous retrouverons nos envoyés spéciaux. La farine de maïs fournie par le Programme alimentaire mondial à Bounia, déclarée impropre à la consommation, c'est le résultat d'analyse effectuée hier mardi par le bureau de l'Office congolais de contrôle de l'Ituri après des plaintes des déplacés attaqués par la diarrhée. Des munitions de guerre, dont des obus, des roquettes et des grenades, stockées dans des conditions inadéquates à l'aéroport d'Issirou en province orientale. Ces engins représentent un danger pour les infrastructures aéroportuaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Le tout premier chef de l'État congolais issu des élections démocratiques depuis 40 ans entre officiellement en fonction dans quelques heures. Au moins 11 chefs d'État sont attendus à cette cérémonie solennelle, ainsi que des chefs de gouvernement ou ministres représentant les chefs d'État de plusieurs pays, sans oublier quelques anciens chefs d'État, notamment ceux ayant travaillé pour le processus démocratique en RDC et les anciens chefs de la MONUC, ainsi que tant d'autres personnalités étrangères. On retrouve en direct du Palais de la Nation notre envoyé spécial Georges Kamujova. Il sera en ligne dans quelques instants et pour l'instant, passons justement à la visite du secrétaire général des Nations Unies, qui d'ailleurs représente à cette cérémonie le secrétaire général des Nations Unies. Donc c'est Jean-Marie Guéhenot, secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Il est arrivé hier soir à Kinshasa. Jean-Marie Guéhenot a déclaré que la communauté internationale va continuer à soutenir la RDC, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Jean-Marie Guéhenot, joint par Jeff Ngoy.
Il y a toute une série de secteurs où une contribution des Nations Unies est un peu possible. D'abord, il faut consolider la situation de sécurité dans le pays. C'est pourquoi les Nations Unies n'envisagent pas un départ précipité de la MONUC qui continue de jouer un rôle important pour la sécurité du pays, en particulier dans l'est du pays. Et il y a l'effort que la communauté internationale devra faire justement pour reconstruire le secteur de sécurité. Il faut que la RDC ait une police moderne et une armée moderne. Mais il faut évidemment qu'il y ait un ordre public et donc que ce secteur de sécurité, ce soit un secteur de sécurité qui a la confiance du pays. Et puis il y a toutes les questions, je dirais, de l'administration du pays qui a été laissée un peu à l'abandon pendant les années de guerre. Pour que l'État ait des recettes fiscales, pour qu'il puisse payer des fonctionnaires, pour qu'il puisse y avoir la santé, pour qu'il puisse y avoir l'éducation, pour qu'il puisse y avoir des routes.
Signalons par ailleurs que Jean-Marie Guéhenot a précisé qu'il a rencontré hier le vice-président Jean-Pierre Bemba. Au menu de leur rencontre, le rôle de chacun dans l'opposition et dans les institutions. Autre arrivée signalée à Kinshasa hier après-midi, celle de Omar Bongo, chef d'État gabonais, et Jakaya Mrisho Kikwete, président de la Tanzanie. Alors, direction tout de suite Palais de la Nation, où se trouve notre envoyé spécial Georges Kamujova. Bonjour. Allô, Georges Kamujova, bonjour.
Oui, bonjour, Adia Chikoukou.
Ouais, vous êtes en ce moment au Palais de la Nation et il y a une heure, les invités arrivaient à compte-gouttes. Est-ce que ça se remplit maintenant?
Disons que il y a environ un tiers de l'assistance qui est déjà là. Le pass des partis politiques s'est gonflé, mais on n'a pas vu, par exemple, des figures remarquables du MLC ou de l'Union pour la Nation qui était le camp adverse à celui de Joseph Kabila au second tour. On voit également dans l'assistance quelques membres de la société civile, des syndicats, des membres des entreprises privées et étatiques, des fonctionnaires de l'État, des représentants des confessions religieuses et évidemment d'autres personnalités. Et on voit aussi l'arrivée progressive de quelques officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Et dans l'assistance, toujours, on voit des chefs coutumiers qui sont venus de l'intérieur du pays. Et en face d'eux, à côté de la tribune d'honneur, on voit le président de l'autorité coutumière, le Mwami de Baye, qui est Mwendamu Nangogo des fois, qui est habillé en blanc, peut-être pour la circonstance, parce que il y a un instant, le chef de protocole nous confirmait que le chef de l'autorité traditionnelle remettrait aussi des pouvoirs, donc disons des symboles de pouvoir au président élu lors de cette cérémonie. Et c'est donc cette ambiance qu'il y a ici, et comme vous pouvez aussi l'entendre, il y a de la musique qui est en train d'agrémenter cacher sous un soleil qui se cache encore sous le nuage. Derrière l'assistance, on peut remarquer, ranger les éléments de la police et quelques éléments des FARDC qui feront sûrement le défilé d'honneur après la cérémonie d'investiture. Et du côté aussi des officiels dans la tribune, on remarque quelques députés élus. Et voilà donc l'ambiance ici au jardin du Palais de la Nation à Dia Tshipoukou.
Georges Kamoudjova, je vous remercie. En prévision de l'investiture du président élu, la garde républicaine est déployée depuis la matinée d'hier mardi à travers le centre-ville et dans plusieurs endroits à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur confirme ce déploiement. Denis Kaloumé a d'ailleurs précisé que la protection du chef de l'État et de ses hôtes relève des attributions de la garde républicaine. Denis Kaloumé est joint au téléphone par René Capita.
Ça fait partie des missions normales de la garde républicaine qui est la protection du chef de l'État et de ses hôtes. Et comme vous le savez, demain et déjà à partir d'aujourd'hui, plusieurs invités du chef de l'État seront dans notre pays, c'est la capitale, et c'est dans ce cadre que la garde républicaine doit non seulement sécuriser certains sites, mais aussi les itinéraires que ces chefs d'État vont emprunter pour rejoindre le palais de la nation. Ils ont reçu des instructions strictes pour qu'ils fassent leur travail sans pour autant fracasser la population.
Comme vous le savez, l'investiture du vainqueur du second tour de l'élection présidentielle marque la fin officielle de la transition en République démocratique du Congo. Mais que deviennent les quatre vice-présidents et les autres institutions de la transition? Voici la réponse que nous propose Peleki Pelamondo, qui a consulté tour à tour la constitution de la transition, la constitution issue du référendum et quelques experts.
La constitution de la transition stipule « La transition prend fin avec l'investiture du président de la République élu à l'issue des élections. » La nouvelle constitution, celle de la Troisième République, stipule « Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente constitution et exercent leurs attributions conformément à la constitution de la transition. » À la lumière de ce qui précède, on peut donc comprendre que légalement, l'investiture du président démocratiquement élu met fin à l'existence de quatre vice-présidents. C'est simple à comprendre. Pendant la transition, au sein de l'institution présidence de la République, on avait les présidents de la République et les quatre vice-présidents. Mais sous la Troisième République, la Constitution ne reconnaît pas l'existence des quatre vice-présidents. En d'autres termes, dans la Troisième République, il n'y a pas de poste correspondant à ceux des vice-présidents. Au sein de l'institution présidence de la République, le président est donc seul. Il n'est pas secondé par des vice-présidents. S'agissant des autres membres du gouvernement de transition, c'est-à-dire les ministres et les vice-ministres, la nouvelle constitution affirme qu'ils vont rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Dans la pratique, une question se pose. Qui va présider les grandes commissions gouvernementales en l'absence des vice-présidents? Sur ces points, les avis des spécialistes sont partagés. Les uns estiment que le président pourrait nommer des coordonnateurs intérimaires qui seraient chargés de coordonner les commissions gouvernementales jusque-là animées par les vice-présidents. D'autres pensent que les chefs de l'État pourraient confier la charge de coordonnateur intérimaire des commissions gouvernementales aux vice-présidents. Cette fois-là, ces derniers ne s'appelleraient plus vice-présidents et ils n'auront plus d'autres prérogatives.
Économie, la farine de maïs fournie par le Programme alimentaire mondial à différentes ONG déclarées impropres à la consommation à Bunia. C'est le résultat d'analyse effectuée hier mardi par le bureau de l'Office congolais de contrôle de l'Ituri sur instruction des autorités du district. Cette farine de maïs est destinée à être distribuée aux déplacés de guerre. Tous les déplacés de guerre qui ont déjà consommé cette farine se plaignent de diarrhée, ont signifié les autorités du district. Isaac Remoyope.
Depuis lundi dernier, le bureau de l'Office congolais de contrôle a interdit à toutes les organisations humanitaires opérant à Bunia de distribuer toute farine de maïs reçue du Programme alimentaire mondial. C'est mardi, à l'issue d'une réunion qui a regroupé les responsables du PAM et de l'OCC à Bunia, les résultats des analyses effectuées dans un dépôt de l'ONG Solidarité à Bunia ont été rendus publics. Selon Jean-Paul Mossilongue, chargé de l'administration et finances au bureau de l'OCC à Ituri, la farine de maïs disponible dans les dépôts de l'ONG Solidarité fournie par les PAM est impropre à la consommation.
Le produit qui était consigné dans l'entrepôt de la Solidarité est déclaré impropre à la consommation humaine. Nous allons utiliser tous les moyens nécessaires de manière à réunir ce produit-là et nous allons détruire en présence des journalistes que vous êtes et de la population qui était venue se plaindre auprès de l'OCC pour donner la crédibilité à l'autorité qui a initié cette opération.
Les autorités du district de l'Ituri disent avoir instruit ces analyses à la suite des plaintes formulées par des déplacés de guerre qui ont consommé cette farine distribuée la semaine dernière par solidarité. Dieudonné Rwabona, commissaire de district assistant chargé de l'économie et finances.
J'ai reçu toute une délégation de déplacés qui, après avoir consommé la farine, ont fait la diarrhée. Les responsables ne devraient que d'abord interdire et demander au service technique de procéder au contrôle. Ces produits déclarés avariés doivent être détruits.
Contacté François Djissou, chargé de la sécurité alimentaire au bureau des PAM à Nitouri, s'est réservé de tout commentaire. Ce dernier a toutefois déclaré n'avoir pas encore été saisi officiellement par les bureaux de l'OCC. Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Lancement hier mardi à Kinshasa du plan d'action humanitaire 2007 en République démocratique du Congo. Les humanitaires s'assignent deux objectifs prioritaires pour l'année prochaine, à savoir réduire le taux de mortalité et faciliter le retour des déplacés, des réfugiés, ainsi que l'intégration des anciens combattants dans la société. Selon le coordonnateur des agences humanitaires des Nations Unies, ce chantier exige une somme de plus de 680 millions de dollars américains, somme presque identique à celle de l'année dernière. Pour Ross Montaigne, même si ce montant n'a été financé en 2006 qu'à hauteur de 40%, c'est cependant une avancée très significative. Qu'est-ce qui explique l'hésitation des bailleurs de fonds à financer les actions humanitaires en RDC? Réponse du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur des agences humanitaires des Nations Unies, Ross Montaigne, au micro de Jacques Molima.
Oui, c'est une crise, une des crises, peut-être la crise la plus catastrophique du monde. Mais il y a pas mal des autres crises, comme vous savez, dans le monde. Mais ici, auparavant, les gens ne voyaient pas clair qu'on peut vraiment faire quelque chose d'utile dans ce vaste pays avec tous leurs problèmes. Et en plus, c'est la réputation du Congo qui n'était pas la meilleure pour la gestion de finances. Alors maintenant, il y avait beaucoup de monde qui, pas à travers les élections, ont compris la volonté de la population. Et en plus, ils ont vu les besoins du pays. On est pas mal optimiste qu'on peut aller en avant l'année prochaine. Et encore, je répète, les bailleurs ont donné beaucoup plus cette année que l'année avant. Et on avait des espoirs pour l'année qui vient.
Province orientale de nouveau, des munitions stockées à l'aéroport d'Issy-Rome-Atari présentent un danger permanent dans ces installations aéroportuaires. Elles avaient été collectées auprès de certains militaires lors de leur entrée au centre d'orientation de la Commission nationale de désarmement et réinsertion en novembre 2005. Le commandant de la 9e région militaire dit avoir saisi Handicap International pour la vérification de leur état avant toute éventuelle destruction. Jacques Moukankolé.
Il s'agit de 207 munitions de guerre, notamment des obus de 60, 81 et 82 mm, des roquettes de 40 et de 105 mm, ainsi que des grenades à main et à fusil. Selon le colonel Kabamba Wakabamba des forces aériennes congolaises à Isiro, ces munitions sont gardées dans des conditions inadéquates. Il craint qu'une mauvaise manipulation ou une forte chaleur ne les fasse exploser, ou encore que les démobilisés fréquemment en colère n'arrivent un jour à les utiliser. Néanmoins, a-t-il affirmé, ces éléments veillent pour protéger et sécuriser les installations aéroportuaires. Interrogé sur les dangers que présentent ces engins, le commandant de la 9e région militaire, le général Paddy Rebulenda, dit avoir déjà saisi l'ONG Handicap International. Celle-ci devrait les vérifier avant de récupérer pour son magasin d'armement ceux qui sont encore bons avant de détruire les autres. En attendant, le danger demeure. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Cap sur le sud Kivu avec les plaintes des conducteurs de véhicules et la FEC à Bukavu. Les deux parties déplorent l'état des routes. À certains endroits de la ville, les accidents de circulation sont enregistrés quotidiennement, surtout sur l'avenue Patrice Lumumba, la principale artère de la ville, où des nids de poules ont élu domicile. Le point avec Didas Namujimbo.
C'est sur le trottoir que désormais certains conducteurs de véhicules de Bukavu choisissent de passer, tandis que d'autres empruntent le sens unique. La raison, c'est la dégradation générale du réseau routier urbain. Les commerçants de Bukavu, réunis au sein de la FEC, se sont indignés contre l'inaction des autorités à travers une lettre ouverte. Le directeur de l'Office des routes, Pierre Amoulignota, pour sa part, affirme que son office a reçu 250 000 francs congolais du gouvernorat pour les travaux routiers, mais que le vrai problème, ce sont les constructions anarchiques le long de la chaussée. On l'écoute.
L'autorité provinciale a été contactée. Nous avons reçu 249 600 francs congolais, soit 480 $ pour acheter 400 litres de gazole. Nous avons déjà envoyé la niveleuse à peu près 3 fois. Nous enlevons la boue. Quand il a plu, comme les gens continuent à terrasser, la boue revient. Nous envoyons encore la niveleuse. Il y a des constructions anarchiques sur le flanc des collines. La solution est d'interdire que ces gens-là continuent à faire ces travaux de terrassement.
Mais en attendant, les piétons, tout comme les policiers de roulage postés sur le rond-point, assistent impuissants à ces véhicules qui empruntent les trottoirs. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Une brève internationale avant de terminer ce journal. La crise du Darfour rappelle le conflit rwandais selon Paul Kagame. Lors de sa visite hier en Grande-Bretagne, le président rwandais a estimé que l'incapacité de l'Union africaine à gérer la crise du Darfour rappelle l'échec de l'Occident pour prévenir le génocide au Rwanda. Paul Kagame exclut un renforcement du rôle des pays occidentaux au Darfour. 8h15 à Kinshasa, l'heure à laquelle nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez-nous sur notre site internet www.radiookapi.net.